Jésus est vraiment ressuscité.
Amen. Alléluia. Quelle nouvelle merveilleuse. Merci encore pour la lecture de Jean 20 qui nous reflète un petit peu le message de ce matin. Nous allons justement parler de cet événement de résurrection. Mais vous savez qu'aujourd'hui, c'est un dimanche où nous avons les enfants avec nous. Et je me suis dit pour les enfants aussi, pour qu'ils puissent comprendre un petit peu ce que nous avons pu lire à l'instant même, ce serait bien aussi de montrer quelque chose. Alors j'ai préparé quelque chose, une vidéo sur un extrait de film sur Jésus pour parler de la résurrection. Merci Samuel pour le visionnage. Voilà. J'espère que les enfants ont bien compris. Ce que nous voulons parler ce matin, c'est la résurrection de Jésus-Christ. Vous savez que l'événement de la résurrection est décrit dans les différents évangiles. Et dans ce film, ils ont voulu un petit peu synthétiser tout ce qui a été dit dans chaque évangile sur la résurrection de Jésus. Dans chapitre 20, évangile de Jean, les deux premiers versets, nous voyons donc Marie de Magdala qui se rend au tombeau. Alors, vous savez qui était Marie de Magdala? C'est celle qui a été délivrée de sept démons. On dit Marie de Magdala parce que Magdala, c'est un nom d'un lieu. C'est pour ça qu'on dit Marie qui vient de Magdala. Voilà. On voit donc cette femme qui arrive et qui se rend au sépulcre de Jésus. Et voilà, nous avons vu dans ce film que le sépulcre était une grotte funéraire et celle-ci était fermée par une énorme pierre. Et elle était, alors là on ne voit pas, mais en fait la pierre était scellée et parce que justement les religieux de l'époque avaient demandé à Pilate de sceller la pierre, de mettre les gardes. Parce qu'ils se sont souvenus que Jésus avait dit dans son vivant qu'il allait être ressuscité. C'est marrant. ce ne sont pas les disciples qui se sont souvenus que Jésus allait être ressuscité, mais c'est les chefs religieux. Bon, ils ne croyaient pas qu'il allait être ressuscité, mais ils ont cru que les disciples allaient voler le corps pour confirmer ce que Jésus avait dit dans son vivant. Alors, je vous lis ça dans Matthieu 27. Faites donc surveiller étroitement la tombe jusqu'à ce troisième jour. Il faut à tout prix éviter que ses disciples ne viennent dérober le corps pour dire ensuite au peuple qu'il est ressuscité d'entre les morts. Cette dernière supercherie serait encore pire que la première. Pilate leur déclara d'abord, prenez un corps de garde et assurer la protection de ce tombeau à votre guise. Ils se rendirent donc au tombeau et le firent surveiller, après avoir apposé les scellés sur la pierre en présence de la garde. Voilà. Alors, les femmes arrivent à l'aurore et elles se disent, mais qu'est-ce qu'on va faire pour débarrasser cette grande pierre? Parce que nous, on n'aura pas forcément la force. Donc, elles s'inquiétaient. Elle ne s'était même pas rendue compte que les chefs religieux avaient mis en place les surveillants, les chefs, les gardes du tombeau. Et voilà. Et ils arrivent. Et Marie constate que la pierre a été roulée. La première pensée qu'elle a, ce n'est pas « Ah, Jésus est ressuscité hein? ». Elle aurait dû penser comme ça, puisqu'elle a maintes et maintes fois entendu ce message que Jésus lui-même disait plusieurs fois « Je vais mourir et je vais être ressuscité dans le troisième jour. » Il a répété maintes fois. Mais en voyant le corps disparu, le tombeau vide, elle ne pense pas du tout à la résurrection. La première chose qu'elle pense, c'est un acte de vandalisme. C'est un acte de vandalisme parce que, voilà, elle ignorait, enfin, voilà. Elle pensait vraiment que les gens... les pilleurs de tombes sont venus peut-être récupérer le corps et peut-être les présents qui étaient autour. Vous savez, on peut voir ça, il y avait beaucoup de pilleurs de tombes, hein, surtout pour les tombes des riches. On peut voir ça aussi dans l'histoire des pharaons. Enfin bref, après avoir constaté cet événement, Marie court où ça, pour prévenir Pierre et Jean. Alors, vous savez que les deux personnages sont très intéressants parce qu'ils ont un passé assez différent. D'abord, Pierre. Ben, Pierre, c'est qui? C'est celui qui a renié trois fois Jésus. Après la crucifixion, il a dû avoir un grand remords. Hein. Et puis Jean, lui, contrairement à Pierre, il est resté jusqu'au bout avec Jésus, même jusqu'au devant la croix. Et c'est comme ça que Jésus a pu lui dire à Jean, voici ta maman et voici ton, voici ton fils, pour dire, Jean, prends soin de ma maman biologique. Jean était là jusqu'au bout. Donc on voit un peu deux personnages complètement différents. Donc l'un complètement culpabilisé, l'autre un peu en attente de la venue de Jésus. Enfin, pas en attente. Il ne croyait pas non plus que Jésus allait ressusciter. Mais comment ? Voilà, complètement dévoué pour le Seigneur. Merci. Alors, après avoir entendu la nouvelle par Marie, qu'est-ce qu'ils font les deux ? Ils courent, nous avons vu. Hein? Ils couraient très très vite. Les deux avaient entendu le message. Et celui qui est venu en premier, celui qui court le plus vite, c'était Jean. Jean était venu en premier. Il arrive en premier et il voit de loin les linges qui sont par terre. Il voit le tombeau vide. Mais il n'entre pas dans le tombeau parce qu'il a un peu peur. Il ne sait pas quoi faire. Et puis, ensuite arrive Pierre. Vous savez qui était Pierre, hein? Il avait un caractère assez spontané, impulsif. Il n'est pas du genre à réfléchir plusieurs fois. Donc, il arrive, en voyant ça, il entre. Hein? C'est Pierre qui agit comme ça. Et puis, après avoir... Enfin, Jean, en voyant Pierre entrer dans la tombe, bah, il le suit aussi. Et à l'intérieur, voilà, il voit, il constate les linges qui étaient par terre. Et puis l'autre linge qui avait enveloppé la tête de Jésus, bien plié. Je vais m'arrêter un petit peu sur cette linge bien plié. Vous savez que dans la tradition juive, les linges pliés rappelaient la relation entre le maître et le serviteur. Je vous explique. Quand, par exemple, le maître était à table, le serviteur donc dressait la table pour le maître, et puis la table était parfaitement meublée, la table était prête, et puis le maître commence à se servir le repas. Et tant que le maître n'avait pas terminé, il ne pouvait pas débarrasser, n'est-ce pas? Alors comment on pouvait savoir que le repas était terminé? Tout simplement, quand le maître avait plié, débarrassé, c'est comment on dit ça? Se nettoie s'essuie les mains, s'essuie la bouche, nettoie sa barbe, par exemple, aussi avec sa serviette, et puis il fait une boule, la jette sur la table. Là, cela voulait dire que le repas est terminé. Par contre, si le maître, avant de partir, il plie la serviette et la mettre juste à côté de son assiette, ça veut dire qu'il ne fallait surtout pas toucher la table, puisque cela veut dire aussi que le maître allait revenir. C'est intéressant comme message, hein? Ça pouvait encore, ce message, enfin, cette histoire de serviette pliée pouvait aussi faire allusion que Jésus revient. Jésus revient. Entre parenthèses. En tout cas, Pierre et Jean ne comprennent pas du tout ce qui s'est passé. Tout cela n'avait pas de sens. Jusque-là, ils n'avaient jamais pensé que Jésus allait être ressuscité. En tout cas, ils remarquent le sépulcre vide. Ils sont assez perplexes. Et ils retournent où ? Pas entre les disciples, non. Ils retournent chez eux. Ils retournent chez eux. Alors que les femmes, et puis Marie sont dans la tristesse. Les femmes restent encore dans... Elles sont attristées. Elles ne comprenaient pas non plus ce qui s'est passé. Au verset 11, il est dit, « Cependant, Marie se tenait dehors près du sépulcre et pleurait. » Elle pleurait parce qu'elle pensait que le corps de Jésus a été volé. Elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. Si vous étiez Jésus, qui aurait aimé entre ses disciples envoyer le tombeau vide, retourne chez eux, et puis les femmes qui sont attristées, restent encore sur place, pleurent et ne comprennent pas, cherchent le corps de Jésus. C'est Marie, hein? Enfin Marie, c'est les femmes. Effectivement, les femmes connaîtront une bénédiction particulière, puisqu'elles vont vivre une expérience inhabituelle. On a vu les deux anges, elles rencontrent les deux anges, mais aussi dans chapitre 20, on voit aussi les deux anges vêtus de blanc assis à la place où avait été couché Jésus. L'un était à la tête et l'autre aux pieds. Et ils lui dirent, « Femme, pourquoi pleures-tu ? » Et elle dit, « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur. Je ne sais où ils l'ont mis. » Et là, elle ressent encore une présence derrière. Elle se retourne, elle voit quelqu'un derrière. Là, je pense qu'elle est encore en train de pleurer. Et cette personne qui était derrière elle lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu ? » Et il rajoute, « Qui cherches-tu ? » Elle pensait que c'était le jardinier. Alors elle lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, je veux bien le récupérer. » Et là, cette personne qui était Jésus, ressuscité, lui dit, « Marie, Marie. » Et là, elle se retourne et elle lui dit, « Rabboni, qui veut dire « maître ». En araméen, veut dire aussi « maître divin ». Je pense qu'elle avait l'habitude, quand Jésus était vivant, de l'appeler « Rabboni, mon maître, tu es mon maître, mon Seigneur ». Et elle le reconnaît tout de suite. Alors, on peut se demander, mais pourquoi Marie ne l'avait pas reconnu tout de suite ? C'est parce qu'elle pleurait que ses yeux n'étaient pas flous, enfin, elle était floue et qu'elle ne voyait pas très bien, ou tout simplement parce que le corps de Jésus a été transformé et qu'on ne l'avait pas vraiment... enfin, il était un peu différent. Ça, vous demanderez au Seigneur. En tout cas, pourquoi, on peut aussi se demander pourquoi Jésus est venu auprès des femmes. D'abord, bien sûr, elles étaient beaucoup plus dévouées pour le Seigneur. Et souvent, les gens disent, pourquoi auprès des femmes ? Parce que elles parlent bien, elles transmettent bien, elles peuvent faire propager la bonne nouvelle à tous. Il y a le téléphone arabe, je dirais le téléphone juif. Je pense qu'il y a un peu de ça, c'est vrai, il y a un peu de ça. D'ailleurs, il lui dit, hein, il leur dit, allez prévenir les disciples. Hein, elle avait reçu cette mission de transmettre cette bonne nouvelle que Jésus est ressuscité, il est vivant. Ensuite, après la résurrection donc, après cette rencontre, Jésus lui dit une phrase assez intéressante. Il lui dit, au verset 17, chapitre 20 au verset 17, c'est un verset assez intéressant, « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères, et dis-leur que je monte vers mon Père, votre Père, vers mon Dieu, votre Dieu. » Il y a une relation, des liens familiaux qui se sont créés. Bien sûr, même avant, on disait que votre Père, le Seigneur Dieu, etc., etc. Mais là, c'est beaucoup plus officiel. Après la mort et la résurrection, maintenant, notre Dieu est devenu mon Père. Mon Père. On peut même l'appeler Abba Père. Par l'œuvre accomplie de Jésus-Christ que nous pouvons vraiment avoir un accès direct avec mon Père, qui est tout proche, tout près de moi, et même à l'intérieur de moi. Et puis, vous êtes devenus mes frères, mes sœurs. Relation fraternelle. Relation filiale avec le Seigneur. Relation filiale aussi, d'ailleurs, entre nous. Et puis, le soir, les disciples se réunissent après avoir entendu que Jésus est ressuscité. Les disciples se réunissent. Les onze étaient là, et puis avec d'autres personnes, avec d'autres disciples. Mais ils avaient une chose, une préoccupation. Ils avaient tous peur. Peur de quoi ? Peur de mourir. Parce qu'on vient de crucifier Jésus-Christ. Et juste avant, c'était le week-end sabbat. Ça veut dire que les gens ne pouvaient rien faire. Le week-end sabbat, on ne tue pas. On ne touche pas. On n'emprisonne pas encore. Mais le sabbat vient de terminer. Donc les gens ont peur d'être emprisonnés, d'être crucifiés même parce qu'ils étaient des disciples de Jésus. On vient de crucifier le maître, donc c'est normal qu'on veuille attraper les disciples. Ils avaient peur, peur de persécution des Juifs. Et c'est pour ça qu'ils s'enferment dans une maison, ils s'enferment à double tour dans les maisons par peur des Juifs. On voit ça au verset 19. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. On peut dire que ils viennent d'entendre que Jésus est ressuscité, mais ils ont toujours peur. C'est comme un chrétien qui connaît un petit peu tout ce qui s'est passé, mais on ne fait pas assez de confiance au Seigneur et on a toujours peur. Pourquoi on a autant de peur? Souvent, on a peur des choses qui ne s'est déjà pas arrivées, qui ne s'est pas encore arrivées. On a peur de rien. On a peur pour des choses parfois inutiles. Et ça ne sert à rien. On a souvent peur de l'avenir. L'avenir n'est pas encore là, mais on a peur quand même. Et on a peur de la maladie, on a peur du célibat, on a peur du divorce, on a peur pour nos enfants, on a peur pour beaucoup de choses. Mais pourquoi s'inquiéter alors que ce ne sont déjà pas encore arrivés et sans doute ça n'arriverait pas non plus? Pourquoi avoir peur? Il y a un manque de confiance au Seigneur. Et là, devant ces disciples qui ont peur de mourir, Jésus arrive. Bon, vous savez que la maison était enfermée. Et là, Jésus arrive dans la maison. On suppose qu'il entre dans la maison. Il a traversé les portes. Il a une autre forme. Son corps est ressuscité, donc il ne doit pas être un corps d'avant. Et donc, il arrive à faire ce genre de choses. Il traverse les portes. Et la première phrase qu'il prononce, c'est « Shalom, que la paix de Dieu soit avec vous. » Ce n'est pas une salutation. Shalom. Shalom, c'est la paix de Dieu en vous. Vous qui avez peur. Il faut que vous ayez aussi cette shalom. La paix. Vous avez entendu sur shalom lors du culte en commun. Hein, Josué nous avait bien expliqué l'importance du shalom chez les juifs, mais chez les chrétiens surtout, parce que là c'est un message adressé à tous les chrétiens. N'ayez pas peur, mais ayez le shalom en vous. Dans Ésaïe 26:3, il est dit, « À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. » On peut avoir cette paix intérieure parce que nous avons confiance en Dieu. Aucune raison d'avoir peur. Que ce shalom soit à vous tous, en vous tous, et à tous ceux qui se confient en Dieu. Donc je vous disais qu'après la résurrection, il y a pas mal de choses qui ont changé. D'abord la relation entre nous, entre Dieu. Dieu est devenu mon Père, vous êtes devenus mes frères et mes sœurs. Et ensuite, il y a la paix qui est accordée, qui est insufflée en nous. Ensuite, Jésus dit encore quelque chose, une phrase, pour que nous puissions agir ainsi, il dit. Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et ses côtés, voilà, pour ceux qui ne croient pas, comme Thomas par exemple. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Et ensuite, après avoir dit la paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Nous avons une mission, être envoyés dans le monde. Être sel et lumière dans le monde. Et après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. Ça me fait penser un petit peu où lors de la création de l'homme, Dieu insuffle son esprit en l'homme. Et là, il est en train de dire encore, recevez le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu en nous. Parce que c'est vrai, comment nous pouvons être envoyés si nous n'avons pas l'Esprit de Dieu? Il faut que Dieu soit avec nous. Il faut que Dieu m'accompagne pour être serein, proclamer haut et fort ce que Jésus a accompli dans ce monde et de ce qu'il va faire aussi dans l'avenir et dans les cieux. Oui, nous avons une mission à accomplir. J'aimerais conclure par ce témoignage. Hier, j'ai enterré quelqu'un. J'ai un très bon ami. Il avait l'âge de mon père. Il souffrait d'un cancer. C'était un des anciens de mon ancienne église. Il était comme mon père. Il était mon père spirituel. On avait une relation vraiment très étroite. Ce que j'appréciais chez lui, c'est qu'il était humble, mais comme il ne pouvait pas être vraiment plus humble que cela. À chaque fois quand je faisais des éloges, il disait « Non, arrête, Jean, de me dire ça, parce que, tu sais, je n'ai pas toujours eu un passé aussi glorieux. » J'ai péché aussi dans le monde, etc. Et puis c'est seulement bien plus tard, à l'âge de 40 ans, que je me suis converti vraiment. Donc ne me mets pas sur les stalles. Non, c'est pas possible. Parce que tout est grâce. Si nous sommes ce que nous sommes par la grâce de Dieu, c'est ce qu'il disait toujours. Et puis non seulement il était mon père spirituel, un ami. Et souvent, j'allais visiter cette famille avec la parole de Dieu en disant, cette famille qui a aussi beaucoup de problèmes, donc je vais encourager avec la parole de Dieu. Quand j'allais dans cette maison, c'est pas moi qui les encourageais, c'est eux qui m'encourageaient. Ils étaient devenus mon pasteur. Et il s'appelait Joe. Ce Joe connaissait tellement de paroles. Verset biblique appris par cœur, il m'impressionnait à chaque fois. J'ai dit, mais comment tu peux apprendre tous ces versets par cœur? Tu connais tellement de versets. Et il disait, tu sais, avec l'expérience, avec l'âge, mais aussi avec... il me donnait vraiment envie de servir davantage le Seigneur. Il me donnait envie d'approfondir ma foi. Et alors cet homme-là disait toujours que, cet homme-là aimait la parole et il a voulu pour son enterrement qu'on lise une parole. C'est dans 1 Corinthiens 15. À partir de verset 42. Là, on parle de la résurrection du corps. Comme Jésus est mort, ressuscité, nous serons tous morts. Et ensuite, le jour où il reviendra, nous serons ressuscités. Comme Jésus l'a fait. Il est dit, il en sera ainsi logique que des morts seraient, les morts se relèveront. Quand le corps est mis en terre, il est mortel. Quand il ressuscitera, il sera immortel. Quand le corps est mis en terre, il est misérable et faible. Mais quand il ressuscitera, il sera glorieux et fort. Quand il est mis en terre, c'est un corps matériel. Quand il ressuscitera, ce sera un corps animé par l'esprit. Il y a un corps matériel, il y a donc aussi un corps animé par l'esprit. Certains, après il dit, certains ne mourront pas lorsque Jésus reviendra, mais ils seront transformés. Au son de la trompette, ils vont être appelés au Seigneur, sans passer par la mort. Est-ce que vous croyez cette parole? Oui. Nous devons l'attendre avec impatience. Paul l'attendait avec impatience. Il était même déchiré. Il disait, j'aimerais aller au-delà, enfin, dans l'au-delà, auprès du Seigneur. Mon cœur, je désire vraiment rejoindre le Seigneur, mais j'ai encore des devoirs à faire ici. Mais j'attends la mort avec impatience. La mort, pour les chrétiens, ne fait plus peur, parce que nous savons que c'est juste une étape pour aller auprès du Seigneur, dans la félicité. Là où il n'y a ni pleurs, ni deuil, ni larmes. Oui, Jésus a vaincu la mort. Jésus est ressuscité. Cela veut dire aussi que tout péché a été pardonné. Tout péché a été expié par l'œuvre de Jésus-Christ. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.